Et cette question, c'était vous, Stéphane Bureau, vous êtes très favorable à la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut vraiment tout dire? Alors, clairement, il y avait, ça c'est mon point de vue, implicitement quelque chose de sulfureux ou peut-être même de subversif qui était présenté dans la question, à l'idée que la liberté d'expression, ben, c'est une affaire encadrée, un concept qui doit toujours être accompagné d'un oui, mais, parce que de plus en plus, dans un contexte, c'est vrai, de polarisation, tu dois vivre ça tous les matins à la radio, on va dire que la liberté de parole, ça peut pas vouloir dire n'importe quoi, qu'il faut savoir la recadrer. Puis pour ajouter à la saveur de la question, et là aussi je le précise, ça a été retiré au montage, Marie-Louise me précède d'avoir une opinion, moi, sur les récentes déclarations de notre collègue de Cube, Gilles Proulx. Ce que j'ai pas pu faire parce que j'ai pas entendu l'extrait. Ce n'est pas une blague, je me le suis fait envoyer, mais je l'ai pas encore entendu. Puis j'ai à peine survolé les articles qui étaient consacrés à ça. Alors elle insiste néanmoins à ce moment-là en me disant que j'avais justement probablement la mesure ou pris la mesure des déclarations en lisant les journaux. Ça me semble surprenant de vouloir un commentaire sur une affaire qu'on connaît pas bien ou apparemment les détails qu'on connaît pas bien ou le contexte de la conversation va faire une différence interprétative. Je crois que dans toutes les circonstances, on est mieux d'aller à la source. Puis dans ce cas-ci, apparemment, je dis bien apparemment, une différence interprétative si on écoute dans le détail. Alors, il n'y avait pas de gêne à tester les limites de ma liberté d'expression, même si je n'aurais pas su de quoi je parlais. Précisément peut-être parce qu'il y avait un espoir entretenu, je dis bien encore une fois une hypothèse, que j'accable Proulx,
ou que tu le défends.
Ou que je m'enfonce personnellement au tribunal d'une certaine opinion en disant que sa parole à lui n'était pas problématique. Parce que sur le fond, c'est ce que je dirais aussi, que sans en connaître les détails, je pense qu'il est tout à fait légitime qu'il ait exprimé ses points de vue aussi, choquant soit-il. Et je parle pas, encore une fois, de ce qui a été dit ou pas, mais que les mots employés, les épithètes, dans un contexte de liberté d'expression, pas toujours agréable, mais que je suis plutôt favorable à ce que il ne soit pas sanctionné les propos de quelqu'un qui veut les émettre et vivre ensuite avec les conséquences. Donc, je fais aussi même l'hypothèse aujourd'hui que j'aurais pu traiter Gilles Proulx de tous les noms d'oiseaux, puis ça aurait été probablement correct, parce que c'est mon impression aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de variables, mais le terrain avait été préparé pour qu'il soit justement contrôlé Proulx pour un excès de vitesse sur l'autoroute de la liberté d'expression. Puis c'est possible que ce genre de choses arrive. Or, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Je pense que ça, c'est la seule question. Il faut d'abord comprendre que les limites légales, parce qu'il y en a de cette liberté d'expression, sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le premier amendement chez nos voisins du Sud donne une licence presque absolue à la parole prononcée. L'incitation à la violence est à peu près le seul garde-fou, et j'en suis totalement. Je pense que jamais, en aucune circonstance, on devrait permettre l'incitation à la violence. Au Canada, c'est un peu différent. La Charte canadienne des droits et libertés teinte le jugement des tribunaux et le discours haineux, on parle pas d'incitation à la violence, est donc encadré. C'est des distinctions importantes. Moi, je suis davantage, j'ai toujours dit, sensible à l'approche américaine, ce qui me rend certainement moins fréquentable. Pas parce que je me régale du discours haineux, je trouve ça nauséabond à sa face même, mais parce que je me méfie davantage de ceux qui sont ou peuvent être les arbitres de ce qui est bon ou pas bon à dire. Parce que dans liberté d'expression, il y a un mot fondamental que je peux pas gommer, c'est liberté. Un mot qui s'accommode très mal des chaînes ou de cages virtuelles, autant qu'elles soient. Parce que je réalise, comme plusieurs, par exemple, qu'au cours des trois dernières années, même au pays du premier amendement, les autorités américaines ont mis en place que Michael Schellenberger et Matt Taibbi, des journalistes respectables et respectés, appellent assez justement le nouveau complexe industriel de la censure, qui renvoie à l'idée du ex-président Eisenhower, le complexe militaro-industriel. Donc, un complexe industriel de la censure où des agences gouvernementales, Département d'État, Homeland Security, en collaboration avec de grandes universités, souvent des institutions très respectables. Je pense au Stanford Internet Laboratory et leur Virality Project. Et aussi tout ça main dans la main avec des organisations privées qui tamisent la parole, patrouillent les autoroutes du net au nom de la lutte à la désinformation ou à la malinformation. Alors ça, c'est une noble mission, mais qui peut toujours en cacher une autre, le contrôle de la parole, une manière de freiner la liberté d'expression ou de contrôler ce qui est dit. Ce sont des outils, des armes de guerre, parce que ces agences ont emprunté leur méthode au Pentagone, qui utilisait ces filtres et ces outils pour livrer la guerre à des pays ennemis. Et c'est aujourd'hui, je dirais, une technologie transférée à la société civile aux États-Unis. Ça m'inquiète au plus haut point. Je le dirai jamais assez. Puis c'est un monde nouveau. Les Twitter Files dont je t'ai déjà parlé, puis là-dessus, il y a une logique qui s'applique à d'autres grands réseaux, ont amplement fait la démonstration que les autorités policières, leur renseignement, ont travaillé main dans la main avec les grands joueurs pour filtrer certaines paroles, la parole de citoyens, non pas d'organisations subversives. Et on parle pas dans ce cas-ci de paroles haineuses nécessairement. Hamilton 68 est une de ces organisations qui avait mis à l'index des comptes qui étaient apparemment associés aux Russes, par exemple. Or, c'était totalement faux. Chez nous, Jean-François Lisée a perdu son accès à Facebook sans jamais savoir pourquoi. Aucun tribunal d'appel. Tu peux pas savoir ce qu'a été ta parole défectueuse ou dangereuse. Puis un matin, il s'est réveillé, pouf, il avait à nouveau accès à son compte. Mais il avait dit quelque chose ou quelque chose avait été dit sur son site qui justifiait qu'on lui enlève ce droit de parole. Et c'est vrai qu'une plateforme et l'espace public, au sens d'être devant chez soi ou sur le perron d'une église, c'est pas exactement la même affaire. Mais on prétend, et les grands réseaux ont prétendu, que l'espace public, le square public ou le perron de l'église, c'était aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, théoriquement, on devrait pouvoir dire à peu près ce qu'on est capable de dire quand on est sur le perron de l'église. Alors, revenons maintenant, si tu veux, aux propos haineux, ou ce qui pourrait être associé à de tels propos. Qui les définit? A-t-on pensé qu'il y a aussi, c'est important, un prix à payer pour les épais qui disent des choses épaisses. Et je pense pas du tout à Gilles Proulx en ce moment. Je dis à toute personne qui sort sa place publique pour insulter, pour vomir son fiel, la haine, ça n'expose pas seulement la cible, mais aussi celui qui la porte. Moi, je préfère donner un espace d'expression aux plus violents et vivre avec les conséquences et souvent aussi aux plus épais et de les voir venir à l'horizon que de leur confisquer la parole et de les voir ensuite disparaître sous la surface d'Internet dans des zones où on ne sait plus où ils agissent. Je suis surtout toujours inquiet du pouvoir qu'on peut et qu'apparemment on veut donner à ceux qui auront la responsabilité d'encadrer la parole. Parce que, disons-le, quand on ouvre la porte à la censure, toujours sous de bons prétextes, parce que c'est jamais fait avec une intention mauvaise, les premiers talibans sont jamais très, très, très loin. Et le problème de la liberté d'expression, c'est jamais la sienne de liberté, celle de l'autre.
Mais regarde en Floride aujourd'hui aussi, là, tu sais ce qui se passe.
Complètement, mais l'exemple est bon, parce que ça se joue à gauche ou à droite. Tant et aussi longtemps que ma liberté de parole peut s'exprimer, sans dos d'âne pour la ralentir, moi je suis heureux. C'est le jour où on entend la sirène après avoir fait un excès de parole que là on commence à se questionner. On dit « Oh, là, il y a quelqu'un qui est en train de m'arrêter? » Alors, pour toutes ces raisons, je suis terriblement chatouilleux et je suis prêt à vivre avec beaucoup de chaos et de mots désagréables sur la place publique afin de protéger cet objet fragilissime qu'est la liberté d'expression. Je sais que le dire ou chérir cette valeur est de nos jours le symptôme d'un léger dérangement, mais je l'assume, je suis légèrement dérangé. Mais c'est quand même surprenant, parce que la liberté d'expression, c'est une valeur qui aujourd'hui est mise à mal et associée essentiellement à la droite. Une espèce de truc pour papy réac qui ne comprendrait pas qu'une saine approche prophylactique permettrait d'éviter des malaises inutiles. Mais non, je regrette, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. La liberté d'expression, c'est un outil fondamental qui nous a collectivement permis de grandir en démocratie. En démocratie, c'est un des leviers de l'espace démocratique.